Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast épisode 23. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Fin de semaine là. Fin de semaine, putain, vendredi, fatigué, hein. Après-midi.
Fatigué.
On vient vers vous avec cette émission, non pas du coup hebdomadaire, mais on va faire ça pour deux semaines, puisque la semaine prochaine c'est Cannes.
Ouais.
C'est la croisette. Pour toi en tout cas.
Et de toute façon, vu qu'on arrive encore dans les semaines où les projections presse étaient pendant que je travaillais. Mmh. Au bif, j'ai quand même vu moins de films pour le moment, mais ça va redémarrer. Ça redémarre déjà. Mais...
Aujourd'hui, on a quand même 5 films.
Hein, ouais, mais 5 films pour 2 semaines.
5 films pour 2 semaines. Parce
mais
que...
donc voilà, mais du coup, oui, avec le départ dans 3 jours pour ce petit festival de la Riviera, de la French Riviera.
Riviera détente.
Hein, un petit festival de Cannes, effectivement, il y a beaucoup de boulot en ce moment.
Tout à fait.
De préparation, notamment. Donc voilà, un peu fatigué.
On va d'ailleurs faire une couverture depuis Cannes. En tout cas, vous pourrez lire Thibaut et ses articles sur cinenews.be.
Ouais.
Ça, c'est déjà la grosse nouveauté. Et vous pourrez également nous suivre plus particulièrement sur Facebook, puisque déjà la première semaine, Thibaut va tenir au courant de ce qui se passe. Et la deuxième semaine,
Je vais faire ça.
Tu peux tenir au courant les gens. Tu vas quand même nous envoyer une ou deux photos. Un selfie sur le tapis
rouge. Sur l'Instagram.
Ça, tu peux. Sur Instagram aussi, si tu veux. Et par contre, la deuxième semaine, moi, je réplique avec tout le matos. Et là, ça va être enregistrement en live sur Facebook, la page Facebook de Cinécast. Et puis, on verra un peu. Peut-être qu'il y aura des surprises, des choses en plus. Mais on préfère ne pas viser trop haut. Comme ça, on peut vous donner quelque chose de sympathique et construire là-dessus.
Parce que je crois que Guillaume ne se rend pas encore bien compte de ce que ça va être la folie cannoise.
Si, je me rends bien compte.
Donc, voilà. Je crois qu'on va tourner un long métrage.
Oui, on est tranquille. Sur place. On a tout à fait le temps. Donc voilà, on va vous parler du coup de 5 films aujourd'hui, 5 films qui sortent sur le cours des 2 semaines, donc cette semaine plus la semaine prochaine. Il s'agit notamment de...
Cette semaine, en sachant qu'on est déjà vendredi et que les sorties sont... enfin, les films sont sortis il y a 2 jours.
Comme ça, vous savez tout. S'agissant donc des films, c'est Dans la brume, un film français de science-fiction, donc c'est déjà clapé là, comme on dit. Deuxième film, c'est A Quiet Place. La grosse sensation américaine, puisque ça a fait un succès de monstre avant l'arrivée forcément d'Avengers, n'est-ce pas? Troisième film, c'est Chien, suivi de Blue, qui est le nouveau film Disney sur les dauphins, si je ne me trompe pas dans ce cas-ci.
En partie.
En partie. Et le cinquième film, c'est Gringo, ou De Gringo, ça dépend un petit peu où vous êtes. Le nouveau film avec Joel Edgerton, réalisé par son frère Nash Edgerton. Voilà, ça c'est les 5 films dont on va parler aujourd'hui.
Quel programme ?
On essaie d'aller... Oui, voilà, on va pas durer 20 minutes l'intro. Par contre, on parle du box-office, comme d'habitude, puisque, comme vous savez, Avengers a été la plus grosse ouverture internationale de tous les temps. Plus que Star Wars.
Petit mot là-dessus quand même. Force Awakens. Il faut relativiser tout ça. Il y a un paramètre que les articles... les gens ils n'en tiennent jamais compte. C'est l'inflation, donc on dit Avengers, plus gros succès de tous les temps. Pas tout à fait.
Pourquoi? Parce que l'inflation, là, je rappelle que le succès, normalement, c'est Star Wars Force Awakens, donc le dernier succès en date.
Ouais, mais ils tiennent pas compte de l'inflation, c'est ce que je dis.
Il y a 3 ans.
Ouais, mais même.
3 ans, il y a une si grosse inflation que ça change tout?
Non, mais je veux dire, mais déjà, Star Wars était déjà pas le plus gros succès de tous les temps.
Plus grosse ouverture, en tout cas.
Non, parce qu'effectivement, l'inflation n'est pas prise en compte. Donc, si ça tombe, c'est peut-être autant N'importe le vent, qui est toujours le plus gros succès, je ne sais pas, tu vois. Succès général, sans doute, meilleure ouverture, ça, j'en sais rien. Mm-hmm. Et dans l'absolu, je m'en fiche. Mais voilà, il ne faut pas croire que parce qu'on dit que c'est le plus gros succès ou la plus grosse ouverture, ça l'est. Il y a des films qui sont sortis il y a 15 ans, 20 ans ou plus, qui ont peut-être fait des meilleurs plus d'entrées et peut-être du coup plus d'argent si on tenait compte de l'inflation actuelle. Donc voilà, petite mise au point.
Ensuite, parlons du box-office, puisqu'on était déjà un peu dans le sujet, mais là on va parler du box-office plutôt de chez nous. Là, dans ce cas-ci, c'est la France. Comme vous savez, on préfère prendre les résultats de la France qu'à Belgique, parce que la Belgique, c'est
compliqué.
Donc, premier film en France, Avengers Infinity War, mais quelle surprise. 2,5 millions d'entrées pour la...
Mais oui, c'est un fameux démarrage. Hein.
Un bon démarrage. Hein. Tu vois, en un week-end, il fait la moitié de la ch'tite famille. Taxi 5, deuxième, que se passe-t-il ? Il est toujours là. 2,8 millions d'entrées au total. Il est monté de 10%.
Il y a eu les vacances.
Les vacances.
Qui sont terminées lundi en France.
Tout à fait. Donc c'est pas mal. Hein. C'est une grosse remontée pour Taxi. 700 000 entrées face à Avengers, c'est pas mal. Toujours joué dans 800 salles.
Ah oui, quand même.
Oui, oui. Moyenne par copie, c'est 883. C'est gigantesque.
D'accord.
Troisième film, c'est Pierre Lapin. Culier remonté du coup. 77% de progression. Donc pour les vacances, c'est parti quoi. Avec 1,4 million d'entrée au total pour la France. Quatrième film, c'est un film qui n'est pas encore chez nous. Je ne sais pas s'il va sortir chez nous, pardon, je ne pense pas. C'était Les Municipaux. T'as vu les affiches ce week-end ou pas ?
Non.
On était tous les deux à Paris, pas pour la même raison, mais on a vu les affiches. Enfin, moi, j'ai vu les affiches des municipaux à Paris. Je disais, c'est quoi ce film ? Faut que je le voie.
Bah, écoute, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'affiches.
C'est un film sur les agents municipaux, quoi, tu vois. Les...
Ah oui, donc le titre est bien vendeur. Hein.
Ah oui, ça donne envie. 300 000 entrées quand même. Et puis Largué. Largué, la fameuse comédie, la comédie girly, qui pour sa deuxième semaine a 260 000 entrées, donc est bientôt au demi-million de spectateurs en France. Voilà pour le box-office chez nos voisins.
Eh ben.
Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet.
Oui, un peu.
Avec le premier film. Le premier film, c'est Dans la brume, un film de Daniel Roby, avec Romain Duris. Je dis à chaque fois, je me trompe. Duris ou Duris ?
Duris.
Duris.
Toi, tu dis Duris.
Duris.
Tout le temps.
Olga Kurylenko.
Oui,
ça, je fais bien.
Tu peux lire Olga Kurylenko parce qu'elle est française.
Kurylenko.
Franco-ukrainienne.
Oui, c'est ça. Et Fantine Ardouin, pour la petite information.
Elle, elle est belge, par contre.
La petite fille ?
Ouais.
Ça se voyait. Terriblement qu'elle était belge.
Ouais.
Soit. Donc, c'est un film, en fait, particulier, puisque, comme son nom l'indique, mystérieux. En fait, il y a eu une catastrophe naturelle en France. Et dans le monde entier, sans doute.
Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop dans l'absolu.
On reste à Paris, en tout cas, dans le film. Parce mais
on n'explique pas d'où vient cette brume.
On reste à Paris et tout à coup, suite à un tremblement de terre, il y a une brume qui envahit la capitale de la France. Et le problème, c'est qu'il y a un gros problème. Une jeune famille, un jeune couple, pardon, a une fille qui a des problèmes respiratoires et donc elle est enfermée dans une bulle.
Ouais, elle a une espèce de condition, enfin d'une maladie. Alors je sais même pas si c'est une maladie qui existe ou pas.
Non.
Je pense pas. Hein.
Non, non.
C'est futuriste. Hein. Ok, d'accord. Ouais, non, mais peut-être que ça aurait pu être.
En tout cas, pas à ce point-là, de devoir vivre dans une bulle.
Tu vois, mais,
ouais.
Oui, en fait, elle est obligée de vivre dans une espèce de bulle, enfin de caisson, un grand caisson, hein, c'est grand comme une petite pièce de 4 mètres sur 2, quand même. Et donc, elle est obligée de vivre là-dedans, ce qui, évidemment, avec les coupures d'électricité, etc., etc., ne facilite pas la tâche. Quand elle a survie dans ces deux brumes.
Donc en gros, leur fille est dans la brume. Elle est dans sa cage, bien sûr, donc elle n'est pas affectée.
Sa cage.
Ça, c'est une cage.
Dans son caisson.
Dans son caisson. Dans la bulle ou dans la brume, c'est un peu c'est la question du film. Elle est dans sa bulle et ses parents doivent changer les batteries, etc. Et donc c'est un peu ça le dilemme du film.
Alors, attends, il faut préciser qu'eux vivent au deuxième ou troisième étage.
Oui, c'est ça.
Mais que cette brume monte très très haut. Donc ils sont obligés de se réfugier au dernier étage de l'immeuble.
Chez les voisins, qui a un petit couple de vieux.
Ouais. Parce qu'ils peuvent pas. Les humains meurent dans cette brume. C'est quand même utile de le préciser.
On a fait un très mauvais job pour résumer celui-là, mais voilà, vous avez l'idée.
Oui, j'ai bien senti que tu avais oublié des éléments essentiels, donc je me permets d'en ajouter.
Non, mais par contre, j'ai pas oublié les éléments pour ne pas parce que j'ai pas aimé le film. Au contraire, franchement, directement, boum, d'entrée. Une très bonne surprise, je trouve, dans la brume. Un film qui fait plaisir à voir parce qu'on sent qu'il y a eu une recherche visuelle, esthétique. Ils ont dit, bon, on va faire autre chose qu'une comédie française ou un film romantique avec Romain Duris et Olga Kurylenko parce que tu pourrais très bien faire une comédie romantique avec les deux. Et ils ont dit, non, on va faire un film science-fiction avec une brume dans Paris. On va essayer de faire des bons effets spéciaux qui ne sont pas toujours tip-top. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même ça se laisse vraiment bien regarder.
T'es difficile, je trouve.
Là, je suis un peu difficile, oui. C'est vrai. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment allé, c'est très convaincant. Et on va prendre ça très au sérieux, avec des performances de nouveau aussi vraiment bluffantes de la part de Romain Duris. Parce qu'à la base, je ne suis pas du tout fan de cet acteur. Je trouve que c'est vraiment l'acteur de pub, et qui a toujours cette gueule du beau mec parisien... que j'envie peut-être un petit peu au fond de moi. Oui, sans doute. Et je trouve que dans ce film, voilà, il joue vraiment bien son rôle. On va dans son sens, on voit vraiment le désespoir dans son, sur son visage, son regard, quand il voit sa fille, qu'il se rend bien compte qu'elle va sans doute mourir dans les prochaines heures. Et voilà, il se donne à fond, je trouve, dans ce film. Et dans l'ensemble, j'étais très diverti, conquis. Un vrai plaisir à regarder. Surtout que c'est bien dosé. Il y a des moments un peu plus tendus, des moments un peu plus doux. Quelquefois des moments de comédie avec les voisins d'en haut qui sont peut-être un petit peu moins réussis, disons-le. 2-3 vannes qui passent un peu. tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment le moment de faire une vanne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'ensemble du film, moi, j'ai trouvé ça très, très réussi. Qu'en as-tu pensé?
Déjà, je trouve que ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de film. C'est du cinéma de genre français ambitieux. Et Dieu sait que le cinéma français manque rarement ambitieux. Peut-être d'ambition. Oui. Je ne veux pas dire que c'est rare, mais il y a chaque année des films ambitieux.
Le cinéma français grand public. Voilà. Là, c'est TF1 Production, ouais. Faut quand même le rappeler. Donc d'habitude, TF1 Production, ouais. C'est Les Tuches.
C'est TF1 Studio ici. Ouais. Donc... là, c'est quelque chose de qui a de la gueule. Ils ont pu mettre des moyens. Et ça se voit, parce que je trouve que d'un point de vue esthétique, effets spéciaux, etc., je trouve ça très réussi. Quand tu dis que les effets sont pas toujours top, je te trouve difficile, parce que vraiment, dans l'absolu et dans l'ensemble, c'est franchement bien. C'est franchement bien. En même temps, le film ne demande pas des effets mirobolants non plus. On reste dans des choses assez sobres, d'un point de vue effets spéciaux. C'est surtout la brume, et au-delà de ça, il y a des petits trucs de temps en temps, mais il n'y a pas énormément de choses qui demandent des gros effets visuels. Bien sûr, il y a des choses plus, qui se voient un peu moins, on ne fait pas toujours attention, on ne pense pas toujours que ce sont des effets numériques, mais il y en a. Mais dans l'ensemble, c'est franchement bien foutu. Non, c'est très réussi, c'est très beau. L'histoire aussi se suit très bien. Elle est intéressante. Effectivement, on découvre comment chacun réagit face à cette brume. Il y a tout un côté débrouillardiste qui est intéressant, je trouve, voir comment on peut faire face à cette catastrophe. Voir ce qu'on peut, est-ce qu'on peut aller dedans, parce qu'on sait que si on respire cette brume, on en meurt, mais est-ce qu'on peut aller dedans, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voir comment ce père, donc joué par Romain Duris, se débrouille aussi pour pouvoir rester en contact avec sa fille, qui est bloquée dans son caisson, et voir comment voilà, cette famille, en général, comment elle va essayer de faire en sorte de s'en sortir. Voilà, et tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant et bien foutu. Les enjeux sont posés assez clairement, assez rapidement. Et le film tient ses promesses. Romain Duris, j'ai parfois un peu de mal avec lui, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un très bon acteur. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans un film, enfin, je ne peux pas en parler. C'est un film de Cannes, donc je ne peux pas encore en parler. Mais là, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Mais soit, dans La Brume, il est déjà très très bien. Voilà, je te dis, d'habitude, c'est vraiment pas le comédien que je préfère. Même s'il est bien. Mais ici, il est vraiment bien. Et clairement, il a les épaules pour ce genre de rôle. Il est assez athlétique. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Une très bonne surprise. Et clairement, il faudrait plus de films avec une ambition pareille.
Je pense que pour les effets spéciaux, c'est peut-être aussi parce que le film est tellement réaliste. Allez, ils nous vendent vraiment bien le concept que c'est le futur, que voilà, cette fille a des problèmes de respiration, elle est dans une espèce de bulle comme ça, et tout est très très bien. Et puis c'est vrai que quand on a l'habitude de voir des Avengers et des trucs comme ça, où ça, c'est plus d'effets spéciaux, on a plus l'œil maintenant pour repérer, je trouve, les effets spéciaux qu'avant. Donc quand tout est bien lisse, et puis quand d'un coup on a un effet spéciaux, alors on s'en rend plus vite compte, c'est un peu ça le seul truc. Mais bon, à part ça, franchement, honnêtement, j'étais vraiment très surpris du film. Qui ne devenait jamais chiant, parce que souvent quand on a un concept comme ça qui est très vraiment un film qui tout repose sur un concept, si l'exécution est pas au tip top, très vite on s'ennuie, ou très vite on a compris, quoi, tu vois. Au bout de 30 minutes tu dis bon, on a compris, c'est bon, il faut trouver des batteries, c'est bon. Et là ils ont réussi à se renouveler plusieurs fois pendant le film, notamment il y a une scène où il doit vraiment confronter quelqu'un qui est peut-être devenu fou, enfin voilà, on ne sait pas, on ne dit pas pourquoi, mais allez, on sent qu'il va devoir faire quelque chose de fort, quoi. et aller à la confrontation. Et donc, on sent vraiment ces sensations-là pour le personnage. Et pour ça, c'était assez surprenant. Et c'était rare pour un film français où je me suis dit, tiens, allez, là, il y a vraiment une ambition et une volonté de faire quelque chose de différent. Donc, rien que pour ça, je donnerais bien.
3 étoiles.
3 étoiles. C'est exactement ce que j'ai. 3 étoiles pour Dans la brume.
Adjugé.
Un bon boulot. Merci.
Très bon boulot.
C'est dommage parce que j'ai pas vu un grand succès commercial en France de ce film. En tout cas, je n'ai pas entendu des très bons échos. Et même la presse française n'était pas très gentille avec le film. Je trouve qu'ils l'ont un peu assassiné, alors que pourtant le film a vraiment de quoi faire. Et certes, peut-être que c'est pas encore. Il faut peut-être le perfectionner un petit peu, faire un deuxième essai ou autre, mais de manière générale, tout y est.
Ouais,
Un peu de choses près.
Complètement d'accord avec toi.
Voilà quoi. 3 étoiles, c'est mérité.
Ouais.
Parlons ensuite du point Hollywood. Que se passe-t-il à
Hollywood?
Hollywood.
Hollywood.
On va d'abord parler d'un truc qui apparemment est vieux, mais moi je viens de le voir. Et apparemment, déjà, un, la saga Fast and Furious va s'arrêter. Quoi?
Bah, il y a un moment, oui. Non, mais enfin, alors, l'info, effectivement, elle vient de
Oui.
ressortir, mais parce que c'est officiel, mais on le savait déjà depuis plusieurs mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est
Bah,
pas.
Justin Lin. Qui avait réalisé quel opus encore, le 5 ou le
Alors,
6
il a réalisé le 3, le 4,
Le
le
3?
5 et le
Tokyo
6. Ouais.
Drift?
Il a fait 3, 4, 5,
Mais
6.
non. C'est lui qui a réussi à faire le changement,
Il n'a
là.
pas fait le 7. Et je pense bien qu'il a fait le 8.
Ok, donc il a.
Ouais, il a fait le 8.
Pas sûr, ok. C'était pas celui qui avait fait James Bond? Non, ça n'a rien à voir, ça.
James Wan a fait le 7.
Oui, voilà, c'est ça, oui, ok. Je me disais bien qu'il y avait un gars qui avait fait des films à rien à voir, qui a fait Fast and Furious.
Ouais. Et donc oui, il est à la base de cette transition entre à partir du 3, où il a commencé à donner comment dire, un nouveau dynamisme, un nouveau souffle à la saga, où c'est devenu cette histoire de famille, on serre les coudes,
Oui,
etc. etc.
c'est la famille.
Voilà, c'est la famille.
Oui.
Et c'est lui qui a fait le meilleur épisode de la saga, le 5, je
Ben oui.
trouve. Moi, j'aime vraiment bien,
Qui a
sincèrement,
complètement.
j'aime beaucoup Fast Five, qui est vraiment super
Et
cool. C'est
qui a
celui à Rio.
redonné
Ouais.
tout un.
Parce que le 4 est pas terrible, hein. Faut bien
Non,
se le dire,
pas
c'est
terrible.
le plus mauvais, je pense. Mais alors le 5, pouf!
Mais ils ont changé la recette, quoi. Ils se sont dit ça va plus être un film d'action avec des scènes de comme braquage, cambriolage ou autre, et une
Ouais, avec des scènes
course-poursuite.
impressionnantes de voitures, on n'est plus dans
Ouais.
le tuning du premier
Ouais.
volet.
Le truc de kéké.
Ouais, le truc de Kéké, c'est exactement ça.
Ouais. Et.
Mais bon. Non, alors c'est pas un grand metteur en scène, on va pas se mentir, hein. Clairement
Ah
pas.
non, c'est du gros film de
C'est
bourrin, oui.
du gros yes man et encore. Mais voilà. Écoute, c'est devenu un peu sa saga, hein, donc c'est normal
Énorme,
qu'il
énorme
retourne aux
succès,
manettes.
hein. Pour les films
Ah bah
Fast and Furious, c'est le
complètement.
plus gros lancement. Ça, c'est le plus gros lancement international, en tout cas. Chiffre d'indexé.
Hein. Ouais.
Parce que, notamment en Asie, ils sont très, 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 très fans
Ah bah ouais.
du film. Et donc, dernier opus de la saga, ce sera le 9 et le 10. Qui vont probablement tourner en même temps
Ah oui, ça
pour
je savais
éviter
pas.
que les acteurs, tu vois, parce que forcément,
Ouais, parce
organiser ce genre de truc, c'est le
que
bordel. Voilà,
le plus compliqué pour un film, c'est d'organiser les plannings,
oui,
quoi.
c'est ça. Surtout quand tu as des pseudo-stars qui doivent s'arranger, parce qu'en soi, il y a surtout Dwayne qui doit venir,
Bah, quand même Dwayne Johnson, Vin
mais surtout lui,
Diesel,
surtout lui. Mais
Jason
Diesel, ne dis
Statham,
pas qu'il fait 5 films
évidemment.
par an, quoi, tu vois.
Non.
Voilà, donc Avengers, c'est plus compliqué.
Ah ouais, ah, ça doit être l'enfer, hein.
Le Infinity War, là, j'ose pas
Ça
imaginer
doit être
comment ils ont dû
l'enfer
faire.
pour les mecs qui doivent gérer le planning.
Mais gérer le film tout court.
Aussi.
Ensuite, toujours Hollywood News, Ryan Reynolds a confirmé, ou en tout cas confirmé, supposé, que forte chance qu'il n'y ait pas de Deadpool 3. Alors pourquoi? Non, ils vont pas arrêter Deadpool, ils sont pas cons, ils savent bien que ça fonctionne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est Céline Dion qui va signer la BO du film, ou en tout cas la bande originale de la chanson du film. Très drôle d'un point de vue marketing. Pas
Plutôt bien
étonnant de la
vu.
part de Deadpool, mais c'est ça, de l'équipe de Deadpool. Tout à fait dans le personnage. Par contre, lui dit, voilà, je pense pas qu'il y aura Deadpool 3. Je pense qu'on va vraiment, en fait, maintenant se tourner vers un univers partagé, construit peut-être autour
Ah
de
bah
Deadpool.
les X-Men, ouais.
Les X-Force, éventuellement. C'est
Ouais.
le nom qu'il a droppé. Peut-être pour nous vendre
Bon,
un peu
enfin,
le
c'est pas une grosse
truc.
surprise, hein.
Bah oui, Deadpool marche tellement bien qu'à mon avis, ils vont faire un univers partagé de X-Force. Et puis, maintenant que Deadpool est lié à Disney, d'une manière ou d'une autre, il faut bien que ça rentre dans
Mais
le
il faut
tas.
voir l'avenir qu'ils vont donner aux X-Men déjà avec le rachat de Disney, donc.
J'ai quand même l'impression qu'ils essaient de faire un truc mature avec mature. Qu'on entende bien. Hein. Il y a leurs séries qui sont pour les enfants, Star Wars et Marvel. Et j'ai l'impression qu'ils.
Oh,
C'est pour les enfants.
D'où Star Wars, c'est pour les enfants. Bah, tu vas te calmer?
ok, d'accord, mais bon, allez, ils essayent vraiment de faire. Non, mais c'est pas pour les enfants. J'aime beaucoup Star Wars aussi. Mais allez, c'est Disney qui est derrière et tu sens vraiment qu'ils essaient de faire en sorte que nouvelle génération, nouveaux jouets, nouveau bazar.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Par contre, X-Men, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils ont acheté la Fox? Bah, c'est une bonne question. Ils auraient tout intérêt à ne pas faire la même chose et essayer de faire un truc peut-être plus adulte, plus ado, plus génération 20 ans, 20, 30 ans, plutôt aller garder les autres pour les plus petits, entre guillemets. Le focus, hein. Je ne dis pas que le film est pour les plus petits, je dis que c'est le cœur de la cible, quoi. Et là, sans doute qu'ils vont faire autre chose, puisqu'en plus, c'est Deadpool qui pourrait diriger un peu tout ça. C'est avec l'humour moins de 18 ans et tout, ça peut être. Enfin, intérieur moins de 18 ans, c'est pas une mauvaise idée. Je crois que Disney, vous pouvez m'appeler si vous voulez des conseils d'orientation.
Ouh là là,
carrément. Carrément, tu vois. Ouais, bof. Troisième news, c'est Jessica Chastain qui, en fait, a pitché un projet à Simon Kinberg. Qu'il a dirigé dans le nouveau X-Men, hein. X-Men ouais. Dark Phoenix qui va sortir.
Un jour peut-être.
2009, février 2019.
2019
2019, 2009, c'était avant Guillaume. Et le but du film, c'est de faire un film d'espionnage au casting 100% féminin. Ça va devenir la mode. À mon avis, dans les trois prochaines années, on va sortir du 100% féminin pour tout. Il y a eu Blockbuster. Voilà. Ghostbuster, pas Blockbuster. Ghostbuster qui s'était pas bien passé du tout.
Tant que t'ailles dormir, hein.
Oui, il est temps. Et puis ensuite, il y a eu, il va y avoir, pardon, Ocean's 8.
Ouais.
Et là, dans ce cas-ci, ce sera un film d'espionnage avec donc Jessica Chastain,
gros casting,
Marion Cotillard, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o et Fan Bingbing.
Ouais.
Autant vous dire qu'il manque juste Jennifer Lawrence, c'est bon. Quoi. Il faut encore un gros nom.
Déjà, ce sont cinq ravissantes femmes.
Ça. Donc casting 5 étoiles, 5 stars. Fantastique. Par contre, c'est pas encore de quoi ça parle, à part si ça vient d'un livre ou quoi là. 355, ça s'appelle. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Redis ?
355.
D'accord.
Voilà, comme ça, c'est. La news est tombée comme ça.
Suspense.
Maintenant, je propose qu'on se taise un peu, puisqu'on va parler d'un film qui s'appelle A Quiet Place. Ou sans un bruit.
Il faut qu'on parle tout doucement.
Oui.
Parce que si on fait du bruit trop fort. S'attraper.
Donc, je vous conseille d'augmenter le son de votre podcast, de votre iPhone, de votre desktop pour écouter la critique du film A Quiet Place. On va pas faire comme ça.
Non, peut-être pas faire tout comme
non,
ça.
Non, sinon on va s'endormir.
Mais on était bien parti.
Littéralement, mais c'était sympa.
On était bien parti.
A Quiet Place, c'est le premier film de John Krasinski. Non, deuxième film. Il avait fait un truc avant, hein, genre un court-métrage ou quelque chose, mais bon, allez, là, c'est vraiment son premier essai. Studio, on va dire.
Ouais.
John Krasinski, avec John Krasinski dans le premier rôle, sa femme dans la vraie vie, Emily Blunt dans le second rôle, et des acteurs que je ne vais pas prononcer parce qu'ils ont des noms assez compliqués.
Quoi, Millicent Simmons? Tu n'arrives pas à prononcer ce nom-là?
Millicent Simmons, ouais. Bah écoute, quand tu m'engueules pour Romain Duris, Duris, tu vois, je suis obligé
par
de.
Contre, je ne connais pas le nom de celui qui joue son frère.
Je ne l'ai pas.
Vas-y, c'est pas mieux là? Pas,
non,
pas
je l'ai pas, mais j'ai déjà trois noms, c'est bien.
D'accord.
Donc, c'est un film d'horreur.
Ouais.
Qu'est-ce qu'un mec de The Office va faire un film d'horreur?
Elle était dans The Office, John Krasinski. Je n'ai jamais regardé The Office, ne regarde pas avec ce regard de dédain. Genre, tu me juges?
Il joue le deuxième rôle de la série, oui.
D'accord.
Steve Carell et John Krasinski.
D'accord.
Oui, oui,
tout à fait. Ah, donc il a fait autre chose que le film de Michael Bay, 13 Hours.
Ah non, il a fait, bah, oui, il a fait 10 saisons, je ne sais plus combien de saisons, là, 8 saisons, 10, 9 saisons.
D'accord, d'accord.
Tout à fait.
Ah ben voilà, j'ai des lacunes à combler.
Pas de soucis.
J'ai beaucoup de lacunes à combler. Mais, ah oui, alors, sacré John Krasinski. Là, il a frappé fort, il a fait vraiment un grand coup avec A Quiet Place. Le film a fait sa première mondiale à Sundance. Mm-hmm. C'était quoi, fin janvier, quelque chose comme ça. Il a cartonné. Il a cartonné à sa sortie en salle aux États-Unis début avril, fin mars, je ne sais plus.
Ah oui, c'est un des plus gros succès début d'année, forcément. Hors
en film d'horreur, le démarrage du box-office est dingue. C'est style Get Out l'année précédente. Ouais. Hein, donc, on est vraiment dans du gros démarrage. Et voilà, c'est le premier film de John Krasinski, qui est généralement plutôt acteur. Et ici, il fait un film très particulier. Donc en fait, c'est dans un monde post-apocalyptique dans lequel il y a des créatures à la peau très dure. Hein. D'ailleurs, il a un panneau chez lui qui décrit ces créatures avec voilà, une description, force, faiblesse, etc. Et il a mis notamment armored, donc une peau presque blindée. Donc c'est difficile d'aller tuer ces bestioles.
Ouais.
Et ces bestioles, elles attaquent quand il y a du bruit.
Elle se repère grâce au bruit, quoi.
Voilà, c'est ça. Elles sont aveugles, d'ailleurs, hein.
D'accord.
Donc elles sont aveugles et elles se repèrent grâce au bruit. Et donc si au milieu des bois, tu fais « Wouhou !» Eh ben, tu peux être sûr que dans les 35 secondes ou dans la minute qui suit, il y a une bestiole qui sera sur toi et qui te bouffera, et voilà.
Ou en tout cas, qui sera, oui.
Qui va réussir.
Ok.
Tu fais pas grand-chose face à ce genre de bestiole. Et donc, du coup, vu que c'est le bruit qui attire ces créatures, le film est adapté en conséquence. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bruit pendant le film. Les personnages ne parlent pour la majoritairement pas. À quelques moments, oui. Parce que s'il y a un bruit plus fort, style de l'eau, tu sais, une rivière, ça c'est bruyant une rivière,
ouais.
Tu peux chuchoter un petit peu à côté. Et tu n'auras pas de problème parce qu'il y a le son ambiant de la rivière qui est à côté. Mais donc voilà, en fait, si ce ne sont quelques bruits d'ambiance, des bruits de pas, et encore, dans son domaine, il a mis du sable partout sur les chemins. Et tu marches à pieds nus. Comme ça, voilà, tu fais pas de bruit avec tes pieds dans le sable. Et c'est toutes des astuces comme ça, il y a plein de choses. Donc le film a très peu de son.
Oui.
Et ça donne un truc génial. C'est pour ça que, en tout cas, avant ma séance, il y avait une petite annonce. Mm-hmm. Ne mangez pas, ne parlez pas, enfin voilà. Parce que c'est vraiment une expérience sensorielle très particulière. Il faut vraiment, idéalement, qu'il n'y ait aucun bruit dans ta salle pour que tu vives le truc pleinement. Moi, ça va, j'ai eu assez de chance. Alors, j'étais au Kinépolis, qui n'est quand même pas le cinéma le plus réputé, le mieux le réputé à ce niveau-là. Hein, mais voilà, idéalement, il faut vraiment avoir une salle qui joue le jeu. Si le public joue le jeu, c'est génial. Et c'est vraiment un film d'horreur très intelligent. Alors après, personnellement, j'ai pas eu des grosses...
Mais tu veux dire qu'ils
construisent... J'ai pas été hyper effrayé, tu vois. Mais il y a eu des bons... quelques bons petits jumpscares et pas que des jumpscares, ils jouent pas que là-dessus, mais ça fonctionne très bien.
C'est plus un thriller, du coup, vraiment, tu penses. Tu vois, genre, peut-être suspense, c'est pas gore, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire,
Non, c'est pas vraiment gore, même s'il y a du sang. Hein. Mais oui, ils flirtent un peu sur plusieurs genres. Ouais. Suspense, horreur... pas thriller, mais voilà, il y a... Voilà.
Donc c'est un film très malin, parce que si tu peux jouer avec ces éléments du bruit, comme tu disais, bah alors tu vas faire... Alors, les personnages près de la rivière, ils peuvent parler un peu, le sable partout, donc il y a vraiment un monde qui a été construit c'est autour
ça.
Du film, quoi.
C'est ça, et c'est hyper intéressant, ce monde, il a trouvé des astuces pour prévenir quand il y avait des créatures aux alentours, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses, et je pense d'ailleurs que c'est le genre de film qui mérite éventuellement une deuxième vision, pour bien saisir tous les aspects. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé. John Krasinski, là, il a vraiment fait une vraie proposition de cinéma qui est très intelligente et qui sort des sentiers battus. Et ça, j'adore. Même si le film n'était pas réussi, rien que le fait qu'il ait essayé de faire ça, c'est couilleux, quoi. Et c'est un peu comme Dans la brume, tu vois. Enfin, je trouve que le film est mieux que Dans la brume, mais il y a de l'ambition, il y a un truc, il y a un postulat, il y a un univers, il y a quelque chose qui a été monté autour et ça fonctionne super bien. Et voilà.
On n'est pas là pour te faire Conjuring 4, quoi. On est là pour te faire un tout nouveau bazar et te livrer une expérience qui fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis fait beaucoup ces dernières années, c'est que le cinéma est moins attractif pour certaines choses, et c'est vrai qu'on a envie de voir une génération de Spielberg arriver qui nous propose des choses très innovantes. Et quand on voit Jordan Peele l'année passée, maintenant John Krasinski, puis même le film de Romain Duris, on se dit tiens, là il y a vraiment une proposition qui arrive, et on espère que ça va continuer comme ça et qu'il y aura un succès commercial au rendez-vous aussi pour qu'ils puissent justifier leur choix et le fait de faire des paris risqués comme ça, quoi.
Ouais, complètement. Tout à fait. Moi, j'ai hâte de voir une nouvelle génération là, qui reprenne un peu les choses en main. Et
quand ils pensent, il y a beaucoup de réalisateurs qui aujourd'hui
fassent des nouvelles propositions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont ambitieuses, quoi.
Et beaucoup de grands réalisateurs aujourd'hui sont des réalisateurs qui ont commencé souvent avec des genres beaucoup plus intimistes, ou l'horreur, le thriller, pour essayer justement de construire une histoire là-dessus. Bah, Spielberg au début avec Duel,
ils sont tous Jaws. Passés dans les cinémas de genre, hein, pour la plupart.
Voilà, et c'est là qu'ils se sont fait vraiment une patte, quoi. Et donc peut-être que les Jordan Peele et les Krasinski seront les prochains
La grosse question.
Ben, il faut voir la suite, hein, comme on dit.
Qui sait,
Non, j'ai déjà entendu parler qu'apparemment, ils voulaient faire un 2.
Ah ouais ?
Ouais. Le studio voulait faire un 2. Pas avec eux, mais...
Oui, je comprends.
Univers parallèle, quoi, tu vois.
Ça peut donner un truc un peu à la Cloverfield. Hein,
ouais, c'est ça. Ils ont hésité, d'ailleurs.
Juste un espèce d'univers partagé. Et on veut faire plusieurs films différents avec un postulat de ce genre-là. Dans l'absolu, pourquoi pas si ce sont des films qui ne sont pas liés complètement comme le Cloverfield ne le sont pas. Évidemment, comme toujours, on va dire c'est pas nécessaire, mais ça peut être pas mal.
Why not, c'est ça.
Honnêtement, avec Cloverfield, on a été assez surpris, en tout cas avec 10 Cloverfield,
oui.
Lane, qui était vraiment bien, et qui ne devait pas être un Cloverfield d'ailleurs à la base, mais qui est devenu un Cloverfield.
Oui, tout à fait.
J'ai pas regardé celui qui a été diffusé sur Netflix directement.
Paradoxe,
apparemment, c'était nul. Ouais. Mais voilà. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais pourquoi pas.
Tout à fait. Passons maintenant au New... Ah oui, la note, pardon. Du coup, 4.
Ah. Ouais, je serais tenté de donner 4, mais...
4 étoiles, dis-moi.
C'est beaucoup.
Ça, c'est une
en vrai, on va dire que c'est un 3,5, mais on va dire 4.
4 étoiles pour Quiet Place. Bam. Premier film de John.
Ouais, franchement, chapeau.
Bah écoute, on a hâte de voir la suite.
Bravo, John.
Bravo, John. Bravo, John. Alors maintenant, on passe au point news française, nos amis du Sud, avec... Plusieurs films. Hein. Le premier film est un film dont la bande-annonce est sortie très récemment. Je pense que même que c'est aujourd'hui.
Bah, il y a quelques heures.
Voilà. Un film, une comédie de Xavier... c'est comment
Xavier Jeance.
Jeance. Tu l'as déjà rencontré, celui-là, apparemment.
Oui, je l'ai déjà rencontré.
Mais c'est son première comédie. Il a fait quoi comme film avant
Que des films de genre.
Ok, d'accord.
Là, son dernier film était au BIFF, Cold Skin. Aussi un film très ambitieux, très intéressant. Mais tourne en anglais, parce que voilà, faire des films de genre en France, on sait que c'est compliqué. Donc lui, il tourne... Mais celui qui a fait Hitman, le premier.
Ah oui ?
Le premier Hitman avec Timothy Olyphant, je crois.
Oui.
Ouais, c'était ça. C'est lui qui l'avait fait.
Ok.
Il a fait Frontières aussi, il a fait The Divide. Il a fait voilà, quelques films de genre plus ou moins réussis, c'est selon. Et là, voilà... un film de commande, comédie française qui est chez Warner Bros.
Après Gangsterdam, on a Budapest.
Ouais, c'est Manu Payet qui lui a amené le projet.
Mon Dieu, Manu Payet. Manu Payet, Jonathan Cohen, qui est toujours très très drôle, je trouve, et Monsieur Poulpe, qui n'est pas encore...
Ça passe sous sa casse.
Il n'est pas encore convaincu au Cinoche.
Non, hein, non. Ah non, au Cinoche, non, clairement pas.
Monsieur Poulpe qui part en Hongrie faire des enterrements de vie de garçon. Ils font une société d'enterrements de vie de garçon en Hongrie. Le pitch est drôle. Ça peut un peu very bad trip à la française, ça c'est clair. Et la bande-annonce est aussi délirante. Enfin,
ça a l'air complètement déluré. Ouais.
Le mythe de la Hongrie et de Budapest pour les enterrements de garçons avec des tanks et des putes. Voilà, c'est un peu ça le concept.
Xavier Jeance me disait il y a quelques semaines que certains trouvaient que c'était son meilleur film. Voilà. Et donc, je suis très curieux de voir ça parce que j'aime bien ces films de genre. Ici, on est dans un... Enfin, on dit c'est les films de genre. C'est films fantastiques, slash horreur, etc. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner en comédie. Attends. Mais du coup, je suis intrigué. Voilà.
Deuxième news, c'est Roman Polanski qui a été expulsé de l'Académie des Oscars.
Ouais.
Un peu français, donc on peut l'inclure.
Il est français.
Il y a aussi Bill Cosby, mais ça c'est plus français du coup.
Non.
Expulsé de l'Académie des Oscars, c'est un peu... On s'y attendait quand même avec tous les trucs de Me Too, etc. qui arrivent ces temps-ci.
Ouais.
Il faut nettoyer son image, quoi. Hein, y a personne qui a été exclu de Cannes pour l'instant, pas de problème.
Non.
Des producteurs français ou quoi.
Pour l'instant, pas.
C'était pas Langman que tu m'avais dit.
Ah, Thomas Langman, il est en garde à vue, ouais.
Garde à vue. Mais bon.
Ouais, mais je crois que c'est parce qu'il a battu sa femme. Donc,
ok, sympa. Et...
Enfin, rien à voir.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et troisième news, alors là, faut que tu m'expliques. Après Gaston Lagaffe, après tout ce que vous voulez, le film Bécassine qui sort au cinéma le 20 juin prochain. C'est qui joue Bécassine, tu sais ça?
Aucune idée.
Tu sais pas, ils ont pas pris Jean-Marie Cotillard qui fait
Bécassine. J'ai vu le poster et j'ai pouffé de rire. Et puis, Bécassine. Après, c'est Bruno Podalides qui réalise. Il y a son frère Denis qui joue dedans et je sais plus trop qui, mais.
Bécassine.
Bon.
Écoutez, on parlait du cinéma français qui osait faire des choses avec Dans la brume, bah là. On est retrouvé bien bas.
Bah là, ils ont osé.
Là, ils ont osé, Bécassine.
Mais ouais.
Oh là là.
Après, on n'a pas vu, on ne juge pas.
C'est vrai. Ils vont peut-être faire des mini-cams le film. Hein. C'est possible aussi, ça.
Mini-cams.
Bon, on passe au troisième film de la semaine. Parce que oui, il y en a cinq. Troisième film, c'est Chien. avec une affiche très étonnante où on voit un homme avec du sang partout sous sa bouche et sous son visage. On a l'impression qu'on aggrave. Qu'est-ce qui se passe ici? Un film qui, du coup, est une comédie dramatique avec, entre autres, Boulie Lanners, Vanessa Paradis et Vincent Macaigne.
Ouais. Quel rôle principal?
Tout à fait. Je le disais à la fin parce que Boulie National, il faut, ouais. faut bien le dire. Donc, c'est un homme qui perd tout et devient un peu étranger au monde qui l'entoure et qui devient un chien. C'est quoi le concept? Explique-moi un peu, c'est quoi cette théorie?
C'est ça le synopsis?
Non, c'est Jacques Blanchot perd tout, sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l'entoure, jusqu'à ce que le patron d'une animalerie le recueille.
D'accord, ok.
Donc en lisant ça, j'ai l'impression qu'il devient un chien.
C'est plus ou moins ça, ouais.
Ouais, ok, d'accord.
Enfin, c'est pas plus ou moins, c'est Didier, mais en moins drôle.
Ah.
Enfin, non, alors, non, dit comme ça, en fait, c'est... Non, parce que Didier est une comédie où le but, c'est vraiment de faire éclater les gens de rire. Ici, c'est pas le but, même s'il y a des choses très drôles, mais c'est un peu triste, dramatique. Hein. Donc, effectivement, c'est un type qui perd tout, presque, qui perd sa femme. Enfin, sa femme le quitte, son gosse en a un peu rien à foutre. Il va perdre son boulot aussi, parce que voilà, il est en décalage avec le monde. Et il va acheter un chien. D'accord. Mais ce chien va mourir assez vite.
Ok.
Et en fait, enfin, c'est limite, il meurt pas en sortant de l'animalerie, quoi. Tu vois, il va se faire écraser par un bus ou un camion. Enfin.
Gros gag.
Et bon, après, le gars, il sort, il a acheté le panier, le bazar, le truc, enfin, la totale, et il a acheté des leçons pour apprendre à dresser son chien. Et du coup, le gars, il a payé 10 leçons. Mais il n'a plus de chien.
2000 boules, ouais.
Voilà, évidemment, personne ne va lui rembourser ses leçons. Hein. Et donc, le gars qui lui a vendu le chien, le matériel et les leçons, c'est Boulie Lanners. Et du coup, en fait, le personnage de Vincent Macaigne, enfin, vu qu'en fait, le personnage de Boulie Lanners ne veut pas lui donner les leçons, vu qu'il n'a pas de chien, il n'a rien à faire là. Il lui dit, bon, tu te casses. Fin... Parce que le personnage de Vincent Macaigne se pointe à la première leçon, quand même. Il dit,
ouais. J'ai payé, je suis là.
Ouais, j'ai envie de voir.
Moi, j'apprends.
Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, il va servir de Kobe pour Boulie Lanners. Il va lui dire les choses qu'il doit illustrer pour montrer ça aux gens qui participent à la leçon.
Okay.
C'est Vincent Macaigne qui va les faire.
D'accord.
Et effectivement, il va, petit à petit, il va devenir chien, si tu veux.
Ok.
J'en dis pas plus. Parce que j'en ai déjà dit beaucoup, c'est même original. Si je spoil rien dans l'absolu, mais oui, c'est quelque chose de complètement fou. On est dans un truc surréaliste. Samuel Benchetrit, il fait souvent des trucs un peu space. Et ici, voilà, c'est complètement le genre de truc que j'aime bien.
Ok.
C'est très très surréaliste. C'est complètement absurde. C'est osé.
Et Vanessa Paradis joue quoi là-dedans? Genre une femme qui va au cours avec son chien?
Non, elle joue l'ex-femme de Vincent Macaigne.
D'accord.
Oui, oui, tu imagines bien Vanessa Paradis et Vincent Macaigne mariés.
Oh, bah oui.
Complètement.
On voit qui est chanceux dans le couple.
Ouais. C'est méchant. Pas le physique, on a dit.
Non, pas le physique. C'est-à-dire qu'on peut parler nous deux.
Mais non, voilà, ça donne quelque chose de très... très bizarre, il y a une certaine sensibilité qui va pas plaire à tout le monde. Hein. Clairement, le film, il aura soit des adorateurs, soit des détracteurs, ça c'est clair.
Et c'est quoi alors du coup? C'est une comédie? C'est un drame? C'est un film de genre?
C'est un drame avec des choses... En fait, c'est drôle par le drame, par l'absurde.
Ouais.
On n'est pas dans... c'est pas de la vanne, c'est pas Budapest. Tu vois?
Non.
On n'est pas dans le very bad trip, on n'est pas dans des délires comme ça. C'est un peu... c'est tragicomique, si tu veux.
Mm-hmm.
Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, voilà, je comprends que ça va clairement laisser des gens sur le carreau. Vincent Macaigne, il fait du Vincent Macaigne. Hein, donc, si t'aimes pas Vincent Macaigne, ça va être compliqué. Boulie Lanners, c'est génial. Il fait un tyran, un dresseur de chiens tyran. Enfin, tyrannique. C'est succulent, moi j'adore.
Il ferait ça bien.
Ouais. Vanessa Paradis, on la voit assez peu. Bon, on la voit quand même, mais assez peu.
Mm-hmm.
Voilà. Le film a vu prix d'interprétation pour Vincent Macaigne, plus prix du meilleur scénario et prix du meilleur film au dernier FIF à Namur.
Ah, quand même.
Donc, ouais, c'est pas rien.
Ah oui, ok.
Donc ça a plu à beaucoup de gens. enfin au jury en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de festivaliers qui n'avaient pas spécialement aimé. Mais voilà, si vous aimez les trucs très surréalistes, absurdes, avec un humour subtil, vous allez aimer.
À la Magritte.
Ah oui, non, enfin, oui, si tu veux, d'une certaine façon, de loin. Mais voilà, c'est très... C'est surréaliste, c'est surréaliste.
Et que vous le sachiez, Chien est disponible dès maintenant dans nos cinémas. Ouais. Il ne faut pas attendre la semaine prochaine.
Exactement.
Contrairement aux deux autres films dont on a déjà parlé.
Oui.
On enchaîne directement avec un autre film parce qu'on a quand même 5 films. Donc il faut... Ah oui, la note, pardon, excuse-moi, à chaque fois j'oublie.
Bah 3.
3, voilà.
Voilà.
T'as autre chose à dire ou pas? Parce que j'ai
non, cru vas-y. Allez, next. Boum.
Next, boum. Le mec, il est chaud. C'est parti sur une lancée. Quatrième film de la semaine, comme ça on y va. Et c'est un film un peu différent, donc voilà, c'est peut-être bien aussi pour faire le coupe entre guillemets entre deux films. Blue, qui en fait est une... c'est presque un documentaire, hein. On est quand même dans Disney Nature, hein. Et c'est une plongée au cœur de l'océan.
C'est ça, alors...
Et des animaux marins.
Ouais, le label Disney Nature a été créé il y a 10 ans maintenant par Jean-François Camilleri. C'est un label qui, comme son nom l'indique, se consacre uniquement à des films liés au monde, aux animaux, ouais, principalement, et forcément, à la flore aussi, mais c'est surtout lié aux animaux. D'ailleurs, chacun des films avait se concentré sur une espèce jusqu'à présent. Il y a eu félin, il y a eu chimpanzé, je crois qu'il y a eu un truc sur les ours aussi, enfin, je les connais pas tous non plus. Mais il y a eu plusieurs films. Et ici, Blue, en fait, c'est le premier à ne pas s'attarder sur... à ne pas se consacrer entièrement à une espèce. Mm-hmm. C'est consacré au monde marin de manière plus large. Et c'est le premier film qui est marin, enfin, qui explore le monde marin.
Ok.
Pour chez Disney Nature. Et donc, Blue, en fait, c'est le nom d'un dauphin qu'on va suivre, parce que la particularité de ces films Disney Nature, c'est de effectivement raconter des choses, enfin informer, éduquer, sensibiliser les gens à plusieurs thématiques,
ouais,
la pollution, la nature, etc., etc. Mm-hmm. Mais ça doit aussi être accessible à un public jeune, et donc il y a tout un côté storytelling avec une vraie narration, avec un personnage qu'on suit, voilà.
Et parfois, il y a une voix off qui fait personnage.
C'est ça, c'est Cécile de France qui fait la voix off ici,
okay,
qui a été visiter un des endroits où il y a eu le tournage. Alors le film a été tourné un peu partout dans le monde, hein, en mer Rouge, dans le Pacifique, etc., etc. Forcément, dans l'histoire, tout se passe, tout se passe au même endroit, entre guillemets.
Oui, oui, oui.
Parce que ce sont des animaux marins, donc ils bougent, forcément.
Mais c'est ça.
Mais voilà, c'est très beau. Il y a des séquences vraiment très impressionnantes, notamment avec des requins. Des scènes de nuit où des requins se nourrissent, chassent. Et tu as des dizaines et des dizaines, voire des centaines de requins qui grouillent au même endroit.
Ah ouais.
Avec un très bel éclairage, chapeau au caméraman, au chef opérateur, parce que avec une lumière qui fait genre clair de lune, tu vois.
Ouais.
Déjà que filmer dans l'eau, enfin sous l'eau, c'est pas évident, mais alors en plus de nuit pour avoir des images qui est de la gueule, c'est vraiment pas simple. Et là, ils ont vraiment fait du très très bon boulot. Et il y a pas mal de séquences comme ça, des attaques de d'orques sur des baleines, enfin il y a des trucs qui sont vraiment très impressionnants, et même découvrir la vie du corail, parce que ça aussi c'est un des gros objectifs du film, c'est de sensibiliser les gens
à la préservation,
à la préservation de la nature et aux coraux notamment, parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins, donc vraiment découvrir comment l'écosystème du corail fonctionne, enfin je dis l'écosystème du corail, donc il y a les coraux, il y a des crustacés, il y a des poissons, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses, des tortues, voilà. Et c'est vraiment très très intéressant. Et c'est, je trouve, pas plombé par la narration, la voix off. Donc vraiment, j'ai pris... Alors bon, moi déjà, j'aime beaucoup l'univers sous-marin, ça fait longtemps, mais voilà, j'aime bien plonger aussi, donc forcément c'est quelque chose qui me parle, genre de film. Et voilà, j'ai pris du plaisir à être devant ces très belles images. Donc encore une fois, Disney Nature, c'est un label de qualité. Ils font vraiment du très bon boulot. Et les documentaires animaliers, ben, je trouve que ça reste ça reste à part.
Ben oui.
Voilà, ça me parle.
Ben, ça donne envie, en tout cas. Honnêtement, ça donne envie de le voir.
Alors, petite remarque, je ne sais pas si ça vaut certaines choses de la BBC. Les Earth et genre ouais, de trucs, bons, Planet hein. Earth et
ils sont très, très bons.
Les films qui sont généralement narrés par David Attenborough, c'est le frère ouais. Le frère du réalisateur de Gandhi, c'est celui qui fait le créateur du Jurassic Park.
D'accord.
C'est son frère qui okay. est un grand réalisateur, enfin producteur de ouais. la BBC. Alors je sais pas si ça vaut les trucs de la BBC. Mais clairement, si on n'y est pas, on n'en est pas loin, quoi. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas forcément très bien le label Disney Nature, ça vaut la peine de vous y pencher, parce que c'est sympa pour les enfants, et pour les adultes aussi, on n'est pas dans un truc vraiment plan-plan, ennuyeux, donc voilà. Vraiment, ça vaut la peine.
Bah, honnêtement, ça donne vraiment envie, j'ai envie de regarder un Disney Nature. C'est lequel bien. Le meilleur pour toi
J'en ai pas vu beaucoup, très honnêtement.
Ouais.
J'ai vu Félin, que j'ai beaucoup aimé.
Félin, bon, si après, je montre ça vu. À ma femme, c'est fini.
Je l'ai vu en espagnol et je ne maîtrisais pas Félin complètement. Espagnol, mais oui, je l'ai vu quand j'habitais en Argentine.
Oh là là.
Et j'y étais pas depuis longtemps. Mais c'était très bien.
Ben dis donc, ok.
Voilà.
Mais donc, honnêtement, ça donne allez. Envie. Quand t'en as parlé, ça m'a donné vraiment envie. Tu donnerais quelle note pour Blue ?
2-3 étoiles.
Allez. 2 ou 3 ?
Ouais. 2 ou 3.
Sachant qu'à quoi le pays, ça a eu de 4. Et dans la brume 3.
Ouais. Allez, 2. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans le même genre de truc, c'est un peu différent. Tu vois.
C'est moins. C'est plus du déjà vu.
D'une certaine façon, voilà. Oui.
Mais bon.
Mais ça reste très bien exécuté. Il n'y a pas d'inquiétude.
C'est mieux que La Terre vue du ciel ou pas ?
Eh bien, je ne l'ai pas vu. Alors les trucs de Jacques Perrin, ça, je les ai jamais vu. Aimer, aucun. Je crois que j'ai vu Microcosme il y a très longtemps, mais je n'ai même pas vu. Océan, là, qu'il ait fait il y a au moins 10 ans maintenant aussi, ou pas loin de 10 ans. Donc, non, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Mais voilà. Tant qu'on est là-dedans, juste conclure vas-y, là-dessus, vas-y. Parce que je parlais de la BBC. La série Africa de la BBC, qui est évidemment narrée par David Attenborough, elle est très très bien. Ce sont 6 épisodes qui parlent de plusieurs régions de l'Afrique. Je sais que le premier, c'est sur le désert du Kalahari, donc le désert qui est sur la Namibie et l'Afrique du Sud. C'est absolument génial. Regardez cette série de 6 épisodes. Mm-hmm. C'est fantastique. Ce que les mecs filment, déjà, ils ont la chance de témoins de choses absolument hallucinantes. Genre des combats de girafes. C'est hyper violent. Elles se balancent le cou. Enfin bref, soit. Il y a vraiment
c'est quelque chose qu'on a jamais
très,
vu.
Très belles choses. Ouais. Enfin, belles.
Naturel, quoi.
Voilà.
Fais ce que tu veux.
Et ça, c'est vraiment une excellente série documentaire. Donc, si vous avez la chance de regarder ça, voilà.
Répète n'hésitez encore pas. Le nom du réalisateur
David Attenborough.
David Attenborough. Et donc, c'est lui qui a fait tous les autres aussi, BBC, quoi. Donc,
Je ne sais pas s'il les a tous faits, mais il en a fait beaucoup. Quoi,
okay. Très, très bien. Est-ce que tu veux parler de Cal un petit peu ? Il y a des choses que tu as envie de dire pendant que tu fais ta valise là maintenant ?
Bah écoute, je ne suis même pas encore parti, que je suis déjà fatigué.
Ça commence voilà. bien.
Non, mais écoute, j'ai fait mes petites demandes d'interview. On aura plusieurs choses déjà sur Ciné News.
Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu... Parce que maintenant qu'on a le programme complet, hein, qu'est-ce que tu attends le plus ? Avant, on avait la sélection, maintenant on a aussi le hors compétition, certains regards, on a vraiment tout. Et on a aussi les jours. Quelle est la séance où tu dis, j'ai vraiment envie d'y être à cette séance-là, j'ai envie d'être dimanche, ou lundi ou...
Laquelle? Je crois que le film que j'ai le plus, enfin la séance à laquelle j'ai le plus envie d'être, c'est un film qui est sorti il y a 50 ans.
Oui, 50 ans, je pense.
50, ouais. Oui, 50.
Je pense que c'est pour fêter les 50 ans du film.
C'est ça. Sorte, ouais, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, en 70 mm. C'est dans la salle de Bussy, donc ça fait 1000 places, à peu près, un peu plus.
Avec
max 1200.
Tonton Kikri, ça là.
Présenté par Christopher Nolan. Ouais. Et ouais, c'est vraiment la séance que j'attends le plus.
Pendant que je suis dans l'avion, quoi. Super.
Je crois que tu ne seras même pas encore à l'aéroport, mais ouais. Oui, mais alors, coup, non, il y a quand même beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses en compétition, évidemment. Il y a quand même des choses très intéressantes que j'ai très envie de voir. J'ai vu un film qui est en compétition pour l'instant. Je ne peux pas en parler, évidemment. Mais j'ai bien aimé le film. Voilà. Sachez-le.
C'est déjà ça. C'est déjà ça.
Je vois le film d'ouverture le lundi. Mais à nouveau, je ne pourrais pas en parler. De toute façon, voilà.
On en parlera aussi.
On en parlera en temps utile, j'ai pu voir un film de la semaine de la critique, celui dont je parlais.
On parlait tout à l'heure. Films, oui, c'est ça.
Ouais, enfin, là, du coup, maintenant, vous savez lequel j'ai vu.
Oui.
Enfin, si vous faites un peu de recherche.
Ou si vous avez bien écouté ce podcast.
Ouais.
C'est ça.
J'ai vu effectivement un film de la semaine de la critique, un film belge. Oh, ça dit encore plus de choses. Ouais, mais forcément, les films qu'on voit à l'avance, c'est souvent les films de son propre pays. Pas toujours, cela dit. Parce que j'ai vu un film qui n'est pas belge.
Qui va parler du film qu'il a vu et qu'il ne peut pas dire. Et j'ai vu aussi un film qui...
J'ai vu des choses. Et dans l'ensemble, pour faire clair et simple, et court et concis, c'était plutôt bien. J'ai vu beaucoup de bonnes choses pour l'instant.
D'un point de vue people, c'est pas très people cette sélection. Non, c'est pas très...
C'est moins glam que ça l'a déjà été.
Ouais.
Mais il y a de bonnes choses. Il y a des chouettes choses dans les masterclass aussi. Ils ont annoncé des masterclass, je sais pas si t'as vu. Donc il y a Ryan Coogler. Il y aura Christopher Nolan qui vient donc faire une masterclass la veille de la présentation de 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y aura
Gary Oldman
et John Travolta. John Travolta, il vient présenter Grease au cinéma de la plage. Ça, je veux y être. Je tiens à le dire, je veux aller voir Grease sur la plage avec Travolta.
Mais déjà, John Travolta, est-ce qu'il s'est encore aligné 4 mots, mec? C'est pas possible.
Ben, je ne sais pas.
Avec Adèle Haziz, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il avait dit encore aux Oscars? Il devait présenter quelqu'un.
Ah ouais?
Je sais plus quelle actrice. Et il a dit genre, I present Adèle Haziz. C'était pas du tout le nom de la fille.
Ça me dit rien. Je ferai des recherches.
John Travolta messed up à des Oscars, c'est génial.
Soit. Et donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu attends particulièrement?
Que j'attends d'autre? Je suis très curieux de voir le film de Spike Lee, Black Landsman.
Je serai là.
Tu seras là, je pense.
Ouais, le lundi 14.
Le Under the Silver Lake aussi, évidemment.
Mm-hmm.
Je suis très curieux de voir le film d'HBO, Fahrenheit 451.
Ouais, avec Michael Jordan.
Ouais. Michael B. Jordan. À la quinzaine de la critique, il y a beaucoup de choses aussi, dont le film Leave No Trace de Debra Granik, qui avait réalisé, si je ne m'abuse, Winter's Bone. Le film qui avait révélé Jennifer Lawrence.
Ouais.
C'est un film avec Ben Foster ici, cette fois-ci. Donc, je suis assez curieux. Il y a un film de minuit avec Michael Fassbender aussi, Arctic. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça se passe sans doute en Arctique.
Oui. Après, le Snowman.
Ouais, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça.
Il y a plein de films qui ne sont pas spécialement en compétition officielle. C'est vrai qu'ils sont assez intéressants. Hein. Personnellement, bon, moi, je suis très cinéma grand public, mais Le Grand Bas, pour ça, je suis très intéressé.
Écoute, j'ai vu un film qui est hors compétition.
Oui.
Un film non, je peux pas lire. Un film qui est hors compétition et qui est très bien. C'est très spécial parce que ça mixe plusieurs choses. Mais voilà, effectivement, hors compète, il y a des choses qui sont alléchantes et qui sont bien. Donc, je suis curieux. Il y aura Solo. Alors, dans l'absolu, Solo, j'ai déjà dit que j'en avais rien à foutre. Mais
ça reste Solo.
Ça reste Solo et ça reste Cannes. Voilà. Donc, t'es les deux ensemble, tu te dis, allez, quand même. Puis voilà,
il y a Orelsen de la Villa Schweppes, ça, tu m'as dit, mais ça, c'est... Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais ça reste intéressant.
Alors, j'ai vu qu'à la Villa Schweppes, il y allait avoir Orelsen, Eddie Depreto, et je ne sais plus trop qui d'autre.
Mais c'est quand? C'est tous les soirs, la Villa Schweppes?
C'est pas tous les soirs, ça commence le 10. Donc, le festival commence le 8. Voilà, ça commence le jeudi soir, jusque le 18 ou le 19. 18 ou 17.
Et donc, Orelsen, il est un soir seulement.
Mais bien sûr.
Le mec, il n'est pas abonné à
Schweppes. Non, le mec, il ne se fait pas un concert tous les soirs à la Villa Schweppes.
Oh, on dit, il paye bien cher pour faire ça. Soit.
Donc voilà. Parlons du niveau interview, il y aura quelques trucs qu'on mettra sur Ciné News.
C'est ça. Allez lire Ciné News, allez consulter Ciné News si vous êtes en manque de Ciné News.
J'ai déjà réalisé deux interviews. J'en ai déjà fait deux. J'en aurai au moins une autre, ça c'est sûr. Le reste, pour l'instant, c'est un peu en attente, mais c'est normal.
Vous aurez plein d'articles sur Ciné News concernant le voyage de Thibaut à Cannes. Et deuxième semaine, je le rejoins. Donc, du coup, tout le matos avec. Et on peut enregistrer des émissions en live, podcasts, etc. avec différents intervenants. On y va avec toute la clique. Hein. Il y a Eric Van Kutsem qui est là-bas, il y a Constant, il y a Élise aussi. Qui devait venir, mais qui n'est pas venu, mais qui pourra venir à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, il y a un peu tout le monde. Donc on va pouvoir bien se marrer à Cannes avec vous.
Ouais,
on de va nos faire valises.
Des choses sympas.
Exactement. Parlons de dernier film pour clôturer cet épisode, avant bien sûr de parcourir le recap. De Gringo, ou Gringo, ça dépend.
Ouais.
Un film américain pour le coup, une comédie action, c'est un peu, on a l'impression que c'est le buddy cop movie, tu vas m'en parler, avec Joel Edgerton par Nash Edgerton, donc son frère qui a réalisé le film, avec aussi David Oyelowo et Charlize Theron, donc c'est pas un casting dégueulasse
et, quand même. Et évidemment au moment où j'interviens pour te dire le nom, le nom m'échappe. Oh, c'est la honte.
C'est pas grave.
Ce fameux acteur qui était dans District 9, qui était dans tous les films de Neil Blomkamp. Bref, l'acteur sud-africain dont le nom m'échappe tout de suite. Charlton Copley.
Oui, Charlton Copley. Je n'ai pas sous les yeux, mais c'est ça que je voulais dire.
Oui, mais ça m'est revenu. Charlton Copley aussi, qui est toujours génial. Gringo, de quoi ça parle? Ça parle d'un gars qui bosse pour une grosse boîte et qui doit aller faire un voyage d'affaires au Mexique avec ses patrons. Et il va y avoir une couille. Le gars, en fait, il est un peu, comment dire, tout est pas au top dans sa vie. Et il veut un peu remuer ses patrons. Et donc, il va leur faire croire qu'il est kidnappé.
Mmh.
Et à partir de là, plein de péripéties. Alors, ouais. Cartel, tout le bazar, chasseur de primes. Enfin, pas vraiment chasseur de primes, mais enfin, si, plus ou moins. La totale, hein. Je te laisse imaginer le cocktail qu'il peut y avoir avec ce genre d'histoire.
Sans blague.
Et c'est prometteur sur le papier et ça l'est dans les faits. Voilà. Alors, le film n'est pas très original dans l'absolu, mais il est plutôt très drôle. Très rocambolesque, fou, bien joué. Ils font... Alors, c'est le service minimum, même si Charlize Theron, elle fait quand même bien la vampe. Hein.
Oui. Ça le fait très très bien.
Joel Edgerton joue un bon gros fils de pute, bien comme il faut.
Il le fait
très bien aussi. mais j'adore Joel Edgerton parce qu'il peut jouer beaucoup de choses.
Oui.
Et c'est un acteur qui est, je pense, assez sous-estimé. David Oyelowo, bref.
Oui.
Je sais jamais dire son nom. Non plus. Désolé, je le charcute là, c'est un peu scandaleux. Oyelowo,
je pense.
Oyelowo, d'accord.
Arrêtez de le dire parce que c'est...
Ouais.
On massacre son nom.
Bref, le mec de Selma.
Oui, bien sûr.
Pas Selma Blair, hein, le film Selma.
Selma et Louise.
Il...
Tout va mal.
Je débranche mon micro, je me casse.
Micro,
là, c'est... Non.
Oh là là.
Pas acceptable.
Heureusement qu'on parle pas de Make To My Love aujourd'hui parce que sinon...
Oh putain, ouais. Ben oui, pas vu. J'ai pas eu le temps de rattraper un film.
T'as pas vu des seins, des jeunes seins de filles de 16 ans sur la plage?
Désolé, je n'ai pas eu 3h20 de ma vie pour rattraper un film d'Abdelatif Kechiche en ce moment. Bref, tout ça pour dire que David Oyelowo est très bien aussi. Et Charlton Copley, moi j'adore ce gars. Donc dès que je vois sa tronche.
Tu souris.
À l'écran, ça me fait déjà marrer. Donc,
oui.
Et surtout, j'ai hâte de voir la suite. Parce que voilà, chaque fois qu'il est là, il y a un truc dingue, drôle. Complètement absurde qui se passe. Et c'est comme ça dans tous ses films. Hein. Donc, où tu sais que ça va en chier un peu. Parce qu'il aime bien faire des gros durs avec des grosses armes et...
Ouais.
Yeah.
C'est ça.
I'm gonna shoot you, le motherfucker.
Le gangsta d'Afrique du Sud.
Ouais. Ouais, alors je sais pas faire l'accent d'Afrique du Sud,
non,
par contre.
Non plus.
Mais...
Et on va arrêter de faire les accents d'Afrique du Sud après...
Mais du coup, ça fait deux acteurs... d'Afrique du Sud dans le film et deux acteurs enfin un réalisateur et un acteur australien parce que les frères Edgerton sont australiens et Charlize Theron et Charlton Copley sont sud-africains.
Ben voilà.
Voilà,
mixité Hollywood aussi,
exactement.
Donc pas grand chose à dire mis à part que c'est un peu fun.
Bah, c'est le film fandard de la semaine, aller voir avec ses potes et voilà.
Ah, carrément.
Arrêtez avec ton film d'avion,
carrément un film fandard quoi.
Bah ouais,
voir avec
une bande de potes. J'ai vu plein de gens qui étaient là genre ouais c'était pas terrible, c'était un peu nul. Pas quand je suis sorti de la séance, mais j'ai vu ça pas mal sur internet et tout. Moi, ouais. Quand je l'ai vu, vraiment, je me suis bien marré, de bon cœur. Et c'était cool. Voilà. Ça fait le job.
Avec
ça casse pas
trois
pattes avec un canard. Hein. C'est, pas le film de la... C'est même pas le film de la semaine. Enfin, de cette semaine-ci, peut-être. Non, je sais pas. Soit. Mais je me suis bien marré. Ouais. C'est tout ce qu'il me fallait. J'en demandais pas plus. Et c'était bien.
Un film de poteau, quoi.
Voilà, un film de poteau.
Très, très bien. Combien d'étoiles, du coup?
Bah, deux.
Deux étoiles.
Bah oui, parce que je suis quand même lucide et je sais que c'est.
Bon, gringo.
Voilà.
Qui signifie blanc, si je ne me trompe pas en espagnol.
Non, blanc, c'est blanco. Hein.
Mais elle est gringo.
Ben oui, mais c'est les étrangers. C'est...
Ah, c'est l'étranger, c'est pas le blanc. Oh, ok.
Ouais, enfin, techniquement, étranger, c'est même pas gringo. Mais quand tu dis elle gringo, c'est, voilà, c'est l'étranger.
D'accord, ok. Voilà, c'était la petite séance apprendre l'espagnol avec Thibaut.
Parce que David Oyelowo, il est quand même pas très blanc. Hein.
Non.
Voilà.
Tu en crois? Mais on l'appelle lui, le gringo, aussi?
Ben oui, c'est lui, le gringo.
D'accord.
Ouais.
Oui.
Bah ouais, malin.
Dans ces cas-là.
Ouais.
Maintenant, on va passer en récap les films qui sont sortis cette semaine et qui vont sortir la semaine prochaine. Forcément, bah, si on en parle, mais qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu. Cobain.
Pas vu.
Ce n'est pas un film sur Kurt Cobain.
Non. Non.
Chien, on l'a vu. Et on avait donné, si je me rappelle bien, 3 étoiles.
Tu te rappelles bien.
Ok. Make to My Love, désolé.
Pas
vu.
Mais en vrai, alors je dis que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu 3h20 à consacrer à Abdi Latif Kechiche cette semaine. Mais j'ai quand même très envie de voir le film, hein, parce que c'est son premier film depuis La vie d'Adèle, je pense. Ouais, donc voilà, moi j'avais adoré La vie d'Adèle.
Étonnant qu'il soit pas à Cannes.
Il était déjà à Berlin. Ou à Venise ? À Venise en septembre dernier,
c'est
je crois.
C'est un film typique de Cannes, ça, quand même.
Bien sûr. Mais non, il était déjà... Oui, de toute façon, s'il sort avant, et voilà. Mais non, ouais. Il a déjà fait des festivals avant.
I Feel Pretty, avec Michelle Williams, Amy Schumer, etc., etc. On n'a
pas vu.
Amoureux de ma femme, avec Gégé Depardieu, Daniel Auteuil, pardon, et Sandrine Kiberlain. Pas vu. Et c'est un film de Daniel Auteuil. Attention.
Oui, oui.
Une saison en France, décidément, les bons petits films franchouillards cette
avec
semaine.
Avec Sandrine Kiberlain, ça.
Sandrine Bonner, dans ce cas-ci.
Sandrine Bonner, pardon.
On les confond, on les confond. Ça arrive. C'est pas le même genre de film, hein, du coup. Blue. Tad et le secret... Blue, c'était 2 étoiles. Hein. Tad et le secret du roi Midas. Ça, c'est un film animé. Et Gringo, qui était également 2 étoiles.
Mm-hmm, de ça. Et la semaine prochaine.
Ça, c'est bon. Et la semaine prochaine, ça, c'est un peu les... Les meilleurs films du podcast, on peut le dire.
Ah bah,
en
clairement.
Tout cas, les mieux notés. C'est... Bon, lui, on l'a pas vu. La fête est finie. Non. Un drame français. Love Addict avec Kev Adams et Mélodie Bernier. Et Marc Lavoine.
Marc Lavoine.
C'est plutôt de ça. Monsieur Je Sais Tout avec Arnaud Ducret, Alice David, Max Bessette de Malglaive. Un beau nom de famille. Beau petit 2, comédie dramatique.
T'as un souci avec les petits 2?
J'ai aucun souci avec les petits 2 et les 22.
Merci.
Final Portrait de Stanley Tucci, décidément, avec Armie Hammer et Clémence Poésie. Ça parle de quoi ça, tu sais ça ou pas?
D'un peintre.
D'un peintre, ok, super. Stan et Ulysse, l'esprit inventif.
D'accord.
Non. Under the Tree, il y a beaucoup de films la semaine prochaine. Hein. On dirait un film de Cannes parce qu'il n'y a que des noms genre suédois ou danois. Ensuite, Dans la brume, on en a parlé.
3 étoiles.
3 étoiles, un très très bon film français, il faut le voir, il faut encourager les gens au cinéma.
Et le film de la semaine ?
Sans un bruit, A Quiet Place, c'est pas fini. Sans un bruit, A Quiet Place, John Krasinski avec Emily Blunt et John Krasinski. 4 étoiles, c'est le film de la semaine pour Cinecast. Comme des rois, avec Cadmerade et Casey Motteklein et Sylvie Testu.
J'ai envie de le voir.
Bah, j'ai vu les affiches à Paris ce week-end, ça m'a donné envie de...
Pareil.
D'embracher Cadmerade dans mes bras comme ça, tu vois, prendre mes bras, aller voir le poster du film pour voir de quoi je parle. Death Wish avec Bruce Willis, he's back. Parce que ça,
Vincent D'Onofrio, un film de Eli Roth.
Eli Roth avec Vincent D'Onofrio notamment et Elisabeth Sue. Et Les Bienheureux, décidément la semaine prochaine, attendez, on va faire le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 films au cinéma la semaine prochaine. Comme quoi, il y a l'embarras du choix. Que ceux qui disent qu'il y a toujours la même chose au cinéma.
Ah oui, donc là, il y a l'embarras du choix.
Là, ils peuvent vraiment tout voir. Les Bienheureux, dernier film de la semaine. C'est sur ces belles paroles que nous clôturons l'épisode 23 de Cinécast.
Et qu'on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine depuis Cannes. Oui. Surtout sur tes articles Ciné News. Et puis la semaine d'après, où là, on sera en live sur Facebook et sur SoundCloud, du coup.
Exactement.
Par la suite. À très bientôt.
À bientôt, les amis. Ciao, des bisous.
Des bisous.